Le journal Loïc Barrière. Le président Macron en Jordanie pour le sommet Bagdad 2 qui réunit les principaux partenaires de l'Irak, notamment l'Iran et l'Arabie Saoudite. L'ONU dénonce l'expulsion de Salah Hamouri par Israël, une expulsion qu'elle qualifie de crime de guerre. Dans ce journal, entretien avec l'avocat franco-palestinien arrivé en France dimanche. En Tunisie, la faible participation au premier tour des législatives est un camouflet pour la politique du président Saïed. C'est la réaction de Khalil Zawiya, le chef d'État catholique, après ces élections. Enfin, en raison d'une grève, le trafic sera perturbé à la SNCF lors du week-end de Noël. La Jordanie a accueilli le sommet régional Bagdad 2. Parmi les pays présents, la France et plusieurs pays voisins de l'Irak comme l'Iran et l'Arabie Saoudite. À cette occasion, Emmanuel Macron a appelé l'Irak à s'engager dans une autre voie que celle d'un modèle dicté de l'extérieur. Allusion notamment à l'Iran qui joue un rôle central en Irak. Le président français estime que l'Irak aujourd'hui est le théâtre d'influences, d'incursions, de déstabilisation qui sont toutes liées à la région. En marge de ce sommet, une rencontre a eu lieu entre le ministre iranien des Affaires étrangères et le chef de la diplomatie européenne. L'expulsion de Salah Hamouri par Israël constitue un crime de guerre, c'est ce qu'affirme le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Selon l'ONU, une telle expulsion est une violation grave de la 4e Convention de Genève. Salah Hamouri, qui a accordé un entretien à Radio Orient, nous l'écoutons.
J'ai été arrêté le 7 mars l'année dernière par les forces spéciales arrachées de la maison. Transmis dans un centre de détention qui s'appelle El Maskoubiyeh, c'est une ancienne église russe. Après, j'ai été transféré dans une prison qui s'appelle Ofer. Les conditions de détention sont souvent très très difficiles, où l'occupant israélien il essaye tout pour briser la volonté des prisonniers politiques. Les conditions quotidiennes sont assez difficiles pour tout le monde, pour les mineurs, pour les femmes, pour les enragés, pour les malades. Et il faut savoir qu'il y a un danger immédiat sur la vie de 200 prisonniers qui ont des maladies. Et moi, personnellement, j'ai été transféré aussi à Darim, une prison très, très fermée en tant de conditions parce que j'étais considéré comme un prisonnier en haut danger sur Israël. Alors, j'ai été transféré à Darim. À Darim, on était 80 prisonniers, deux par cellule. Aussi, les conditions c'était ils étaient difficiles.
Et vous avez d'ailleurs mené une grève de la faim.
Ouais, j'ai mené une grève de la faim contre la détention administrative. Cette détention illégale, inhumaine, c'est la troisième fois dans laquelle je suis détenu. C'est un ordre militaire donné par l'armée israélienne sous prétexte d'un dossier discret. Et du coup, depuis, on a déclenché une grève qui a duré 19 jours aussi dans des conditions très très difficiles.
Et Israël vous a expulsé dimanche dernier. Vous êtes arrivé à Paris ce dimanche. Dans quel état d'esprit ?
L'état d'esprit, pour moi, cet arrachement, ce nettoyage ethnique qui continue, qui m'a visé cette fois-ci, est un sentiment très très dur d'être arraché de ma patrie. Dans laquelle j'ai vécu, j'ai grandi, j'ai toutes mes mémoires, la partie de ma famille, et c'est là-bas que je veux vivre. C'est un sentiment de quelqu'un que tu as arraché son cœur, quoi.
Et vous dites que pour vous, le combat continue. Comment cela va se traduire ?
Bah, le combat, pour moi, comme j'ai dit à l'arrivée, pour moi, la Palestine, c'est une cause et n'est pas une géographie. Je tiens le combat de mon peuple, où n'importe où je me trouve, ici en France et ailleurs, je continue le combat, ça va traduire dans tout moyen de combat possible.
Il vous est aujourd'hui interdit de vous rendre à Jérusalem-Est. Vous gardez espoir de pouvoir vous y rendre un jour ?
Oui, bien sûr. J'ai toujours espoir et je vais lutter pour ça.
Est-ce que vous pouvez nous faire part, justement, des actions que vous meniez à Jérusalem-Est, notamment au sein de votre ONG ?
Bah, nous, on est dans une ONG qui défend les prisonniers politiques palestiniens. On défend les droits des prisonniers. On travaille pour améliorer la condition de détention. On travaille pour leur liberté aussi, la liberté des enfants, des femmes. Et toute action possible pour rendre le droit à mon peuple.
Quel regard avez-vous porté sur les actions menées par la diplomatie française, la France qui a vivement condamné votre expulsion de la part des autorités israéliennes?
Ouais, la condamnation n'est pas suffisante, en effet. Et il faut que la France arrête de traiter Israël comme un État au-dessus du droit international. Israël doit être puni pour ses crimes de guerre commis contre le peuple palestinien. La diplomatie française, je pense, elle n'a pas suffisamment fait pour que je ne dois pas déporter en France.
Qu'est-ce que vous entendez faire aujourd'hui en France?
Bah, aujourd'hui, je veux voir comment je veux organiser ma vie. J'ai une nouvelle vie. Je veux voir la famille, surtout. Et après, je veux commencer à travailler sur mes projets.
Vous êtes avocat et vous allez poursuivre votre activité d'avocat.
Ouais, exactement. Et surtout mes activités politiques pour le droit du peuple palestinien.
Et ces activités politiques, comment cela se traduit? Quelles sont-elles?
On voit clairement qu'il y a un large mouvement de solidarité en Europe dans laquelle je travaille avec lequel je travaille, avec les partis, avec les ONG, avec les médias, avec tout ce qui peut être au bon pour mon peuple.
Vous avez été soutenu par plusieurs associations, plusieurs organisations, comme par exemple Amnesty International aussi, ouais. plusieurs élus locaux. On pense notamment au maire de Gennevilliers, Patrice Leclerc. Ouais. Comment avez-vous accueilli ces soutiens?
Déjà, j'ai remercié Patrice, j'ai remercié tous les gens qui m'ont soutenu pendant mes mois de détention, qui ont soutenu la famille. Et c'est avec eux que je continuerai mon combat, parce que c'est des gens qui font partie de la Ligue du peuple palestinien. Ils ont un rôle très 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 important dans la continuation de ce lutte-là.
Est-ce que vous faites un lien entre votre expulsion, la date de votre expulsion, et la formation d'un nouveau gouvernement en Israël?
Je pense que l'ancien ministre de l'Intérieur, Rafik El Tchaked, elle a voulu terminer son mandat avec mon expulsion. C'est pour ça qu'elle a poussé pour l'accélérer, pour faire la pub politique et gagner des points sur le dos du peuple palestinien encore une fois.
Et aujourd'hui, vous entendez maintenir le dialogue avec la diplomatie française pour pouvoir retourner à Jérusalem-Est?
Oui, bien sûr. La diplomatie française a un rôle très très important. Elle doit l'assumer pour pouvoir garantir mon retour.
Salah Amouri au micro de François-Xavier de Calonne. L'Iran serait sur le point d'exécuter un troisième homme condamné pour avoir manifesté contre le régime. C'est ce qu'affirme Amnesty International. Dans une vidéo, les parents du jeune homme ont supplié la justice iranienne d'épargner leur fils. Après le premier tour des élections législatives en Tunisie, la France prend note des résultats préliminaires et du faible niveau de participation constaté par l'instance supérieure indépendante pour les élections, un scrutin vivement critiqué par l'opposition tunisienne. Entretien avec Khalil Zawiya, président d'Etacatol, ex-ministre tunisien des Affaires sociales.
Ces élections, le résultat de la participation est un camouflet à la politique du président Kais Saied. L'électeur tunisien n'a pas adhéré à ce processus et il s'est rendu compte que ces élections n'ont aucun sens. D'abord, la loi électorale est très mauvaise et deuxièmement, surtout ça, c'est que c'est une assemblée qui n'a aucune prérogative, ni pour investir un gouvernement, ni pour le contrôler, ni même pour proposer des lois. Donc le Tunisien a eu raison de penser qu'il n'y avait aucun intérêt à aller participer au vote.
Et que demandez-vous au président de la République suite à ces élections et à ce faible taux de participation?
D'abord qu'il fasse le constat et qu'il reconnaisse son erreur. Tout a été fait au palais de Carthage sans qu'il y ait de concertation, même avec ceux qui le soutenaient. Il ne s'est même pas concerté avec eux. Et deuxièmement, qu'il arrête cette mascarade et que le deuxième tour qui est prévu, on ne sait pas quand, peut-être fin janvier, ne se fasse pas et que actuellement, donc on révise tout ça et qu'il est pour réviser la copie, donc annuler ces élections. Et deuxièmement, entamer un processus de dialogue qui permette de sortir le pays d'une crise politique ouverte actuellement, parce que il y a un problème de représentation nationale qui n'existe pas et qui arrive à un moment très dur pour la Tunisie, qui est la suspension des négociations avec le FMI et donc une crise financière de l'État qui est intenable. Aujourd'hui, on est à 10 jours de la nouvelle année et on n'a pas de loi de finances, il n'y a pas de budget qui a été voté, qui a été accepté et qui est promulgué. Donc ce n'est pas possible de continuer dans cette politique. Tout le monde avait prévenu que ces élections allaient être un échec. Et ça a été le cas.
Et ce dialogue que vous demandez, qui devrait, selon vous, y participer ?
Nous sommes pour la participation de tout le monde, de tous les intervenants politiques. On l'a déjà fait en 2013 et ça a marché. Lorsqu'il y a eu une crise comme celle-là, c'était même difficile à l'époque, parce que le pays était divisé en deux. Il y avait un meurtre politique, il y avait une assemblée qui ne fonctionnait plus. Et malgré tout ça, au bout de quelques mois, on s'en est sorti. On a pu faire une constitution consensuelle, des élections de 2014 avec un taux de participation de 60%, 61% exactement, mais ça a permis au moins de sortir de la crise politique.
Vous demandez aujourd'hui une révision de la nouvelle constitution ?
Tout le processus entamé par Kais Saied est tombé à l'eau. C'est un ensemble. Et puis cette constitution, on aura le temps de la revoir à tête reposée. Actuellement, je crois qu'il faut commencer à construire l'étape d'après les deux constitutions, celle de 2014 et celle de 2022. C'est fini, quoi. Les choses sont pliées. Le processus ne peut pas continuer avec ce taux de participation. En Tunisie, aujourd'hui, tout est arrêté. Il y a une crise politique, il y a une crise financière, où l'économie va s'arrêter, il n'y aura pas d'investissement devant tant d'incertitudes et tant de difficultés financières de l'État, qui oserait investir ?
Vous l'évoquiez, le Fonds monétaire international a annoncé que le prêt de 1,9 milliard de dollars ne serait pas au menu de ces discussions de décembre. C'est un coup dur pour l'économie tunisienne.
Aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité quant au financement du budget, d'abord pour clôturer le budget de 2022, et deuxièmement, pour revoir le budget de 2023, sachant que l'année 2023 est une année très difficile, puisqu'on a des échéances de remboursement d'anciens crédits qui représentent une somme majeure, autour de 4 000 millions d'euros. C'est intenable. Sans l'accord avec le FMI, il n'y aura pas de bailleur de fonds extérieur. Si le FMI, au-delà de la somme qui n'est pas... Ce n'est pas cette somme-là qui va nous faire sortir de la crise financière, mais elle va donner une crédibilité à l'État tunisien qui pourra trouver des fonds de financement pour le reste du budget, pour l'année prochaine.
Et êtes-vous favorable à la mise en œuvre des réformes, cette mise en œuvre conditionnée aux prêts accordés par le FMI ?
Le gouvernement n'a pas révélé le contenu. Tout ce qu'on sait, c'est de gros titres, c'est-à-dire une baisse de la subvention, voire une disparition de la subvention des produits de consommation courante, notamment tout ce qui est alimentaire, et bien sûr, suppression de la subvention de l'électricité, du carburant. Ça, ils sont en train de l'appliquer progressivement. Et puis, les autres mesures, qui est la mise en vente des entreprises publiques, on ne sait pas lesquelles et comment ça va se faire. Tout cela se fait dans une situation occulte. Vraiment, il n'y a aucune visibilité pour le citoyen. C'est ce qui a encore poussé le citoyen à ne pas aller voter. Il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé.
La Tunisie, qui a vécu ces dernières semaines des pénuries de produits de première nécessité dans certains magasins, quel état des lieux faites-vous aujourd'hui sur cette situation ?
L'État a été responsable et est responsable de la destruction de certaines filières, telles que la filière du lait. Lorsque le coût de la production du lait augmente, on ne peut pas garder de manière artificielle ces prix-là. Donc, d'une manière obligatoire, les prix ont été maintenus de manière artificielle, ce qui a fait que le producteur du lait, l'éleveur de vaches, ne produise plus de lait. Nos vaches laitières sont en train d'être exfiltrées vers l'Algérie et vendues en Algérie, parce que l'agriculteur ne trouve pas son compte. Donc c'est une destruction programmée. Tout le monde a dit qu'il fallait augmenter le prix du lait pour permettre à l'agriculteur de trouver son compte et que la filière reprenne. Et personne qui n'écoute, c'est une décision présidentielle de ne pas augmenter le prix du lait à la consommation. Et ça détruit toute la filière. C'est clair, aujourd'hui, on commence à avoir des pénuries parce que l'État manque d'argent. On commence à avoir une pénurie de certains médicaments qui sont importés. Et c'est la nouveauté.
Khalil Zawiya, président d'Etacatol, ex-ministre tunisien des Affaires sociales, il répondait à François-Xavier de Calonne. En France, 2 trains sur 3 rouleront ce week-end en raison d'une grève des contrôleurs. C'est ce qu'a annoncé la direction de la SNCF. Le collectif de contrôleurs a maintenu son préavis de grève pour Noël et le Nouvel An avec le soutien de Sudrail et de la CGT Cheminots. Elisabeth Borne appelle à porter le masque dès que l'on est dans un espace clos où on est nombreux. La première ministre appelle aussi les Français à se faire vacciner contre la grippe et le Covid, surtout s'ils doivent se retrouver en famille pour les fêtes de Noël. Les bailleurs sociaux ont recensé davantage d'impayés de loyers cette année. C'est ce qu'a annoncé l'Union sociale pour l'habitat, qui voit un effet de la flambée des prix de l'énergie. La Cour européenne des droits de l'homme a débouté Éric Zemmour et validé sa condamnation pour provocation à la discrimination et haine religieuse envers la communauté musulmane. Le polémiste ex-candidat à l'élection présidentielle avait été condamné pour des propos tenus sur France 5, c'était en 2016. Enfin, l'invité de Pluriel à 19h et 23h est Eduardo Rian-Sipel, ancien député, porte-parole de Territoire de Progrès. Il reviendra notamment sur la finale du Mondial qui a opposé la France à l'Argentine. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.